Bonjour Olga Prokopieva.
Bonjour.
Vous êtes coautrice de ce petit livre qui dresse le portrait de 15 opposants russes, des profils variés, des générations différentes. Également, bien sûr, la plupart en exil. Certains sont encore en Russie et vous avez bien sûr évité, dans ce cas, de donner leur nom. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Russie, après plus de 1000 jours de guerre, il est encore possible de s'opposer à la guerre en Ukraine et à Vladimir Poutine?
L'opposition est un mot qu'il faut prendre avec des pincettes parce qu'on parlerait plutôt de résistance, à tel point qu'il est très difficile justement de s'exprimer et d'agir contre la guerre et contre le régime en étant à l'intérieur de la Russie. Donc là, on a envie plutôt même de parler de 15 personnalités de la résistance, même si certaines sont en exil et agissent de manière différente. À l'intérieur de la Russie, même un simple affichage ou une expression sur les réseaux sociaux critiquant la guerre, critiquant l'armée, critiquant Poutine, vous conduit en prison. Il y a 1 400 aujourd'hui prisonniers politiques selon les estimations. Et encore, ce ne sont que des estimations. Et quand on dit prisonniers politiques, c'est tout simplement des personnes qui expriment une opinion.
Les actes de résistance, puisque vous utilisez ce terme aujourd'hui en Russie, ça consiste en quoi? Des collages d'affiches, des journaux qui sont distribués dans les boîtes aux lettres. On sait que ça a existé, ça existe encore aujourd'hui?
Alors, les journaux, oui, c'est le mouvement résistance féministe anti-guerre qui a par exemple une gazette qui s'appelle La vérité des femmes, et on trace le portrait, le récit de ces résistantes qui sont donc majoritairement des femmes dans ce mouvement. Et en effet, elles distribuent cette gazette dans les boîtes aux lettres. Et l'objectif, c'est surtout de viser plutôt des femmes 40 plus, voire 50 plus, et de leur parler de la guerre, d'avoir un autre regard, même tout simplement sur la vie au quotidien. Parce qu'il ne faut pas oublier que les Russes sont dans une sorte de bulle, puisque l'ensemble des médias indépendants ont été fermés et poussés à l'exil. Et il ne reste aujourd'hui que la propagande d'État, ou alors s'informer via Telegram ou via des réseaux sociaux qui sont, encore une fois, même limités.
D'ailleurs, il y a des conseils que se donnent ces opposants ou ces résistants pour justement déjouer cette surveillance, des conseils très pratiques.
Il y a des conseils très pratiques. Le mouvement, par exemple, Média Partisan, qu'on décrit aussi dans notre livre, il donne des fiches d'instruction, en fait, comment il faut agir si vous voulez aller faire des graffitis ou accrocher des pancartes dans la rue, qu'il faut absolument avoir des vêtements sans signes distinctifs très apparents, avoir des capuches, ne pas emprunter les transports en commun, laisser le téléphone à la maison. Donc oui, il y a des précautions très concrètes à prendre.
La répression est telle que, vous le dites d'ailleurs en introduction, le simple fait de détenir ce livre
Oui.
pourrait conduire en prison.
Alors en fait, le Kremlin utilise de nombreux mécanismes pour étouffer l'opinion contraire, tout simplement. Et il y a un arsenal de lois qui est sorti, qui s'est développé déjà depuis 2012, l'année un peu du tournant dictatorial en Russie, et dont une des lois qui porte sur les organisations dites indésirables, dont l'activité est interdite en Russie. Et notre association, Russie Liberté, a été classée dans ce registre en janvier dernier. Et donc, nous, notre activité est interdite. Et comme ce livre est une initiative de notre association, il y a notre logo sur la couverture. Donc, les personnes qui seraient en détention de ce livre, en plus avec des mots guerre qui restent encore interdits en Russie, sur la couverture, eh bien oui, elles risquent quelque chose. Pour le moment, on n'a pas prévu de le diffuser, malheureusement, en Russie.
Alors, dans ce livre, ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a plusieurs générations d'opposants. On a Liev Ponomarev, qui a connu la dissidence à l'époque soviétique. On a aussi des jeunes qui sont nés sous Poutine. Et j'ai l'impression qu'il y a pour tous un point commun, c'est quand même ce point de bascule qui est le 24 février 2022, c'est-à-dire le début de la guerre.
Il est vrai, en fait, il y avait déjà des soulèvements et des mouvements de jeunesse démocratique, comme par exemple Vesna, le mouvement qui existait déjà bien avant le début de l'invasion massive de l'Ukraine, et des mouvements de dissidence plus anciennes, comme celui de Lev Ponomarev. Mais depuis l'invasion massive, il y a eu un tel choc, en fait, dans la société russe, qui s'est d'ailleurs traduit par des manifestations massives dans les premiers jours qui ont suivi cette guerre guerre d'invasion. Et il y a eu plus de 20 000 arrestations dans les premiers mois. Mais cette guerre, en fait, c'était quelque chose d'impensable pour beaucoup, beaucoup de Russes. Même ceux qui, aujourd'hui, ne se considèrent pas comme des militants ou qui restent plutôt muets, ils sont aussi sous le choc. Personne ne pensait que Poutine serait capable d'aller jusqu'à attaquer l'Ukraine et massacrer des Ukrainiens. Et d'ailleurs, ce livre, en fait, a aussi comme objectif de montrer qu'il y a une multitude de voix. Et justement, ces voix-là, elles ne souhaitent pas que les Ukrainiens soient massacrés en leur nom. Donc, il leur est important de montrer, par différents modes d'action, qu'elles s'opposent à cette guerre.
Il y a ce jour du départ, et puis il y a une expression qui revient aussi beaucoup dans la bouche de ces 15 opposants, c'est l'espoir du premier vol, c'est-à-dire l'espoir du premier avion qu'ils prendront, ceux qui ont fui la Russie, le jour où Vladimir Poutine ne sera plus au pouvoir. Mais c'est pas se bercer un petit peu d'illusion que de penser aujourd'hui à la chute de Vladimir Poutine ?
Non, je pense qu'on doit penser dès maintenant à ce que la Russie de demain doit être, à réfléchir à comment la réformer, aux erreurs à ne plus commettre pour que la Russie devienne un pays pacifique, mais aussi non impérialiste, qui ait vraiment une réforme aussi du système judiciaire, que toutes les personnes impliquées dans les crimes de guerre soient poursuivies. Il y a vraiment un besoin de réforme en profondeur, et beaucoup de personnalités de la société civile et de l'opposition travaillent déjà à ces réformes-là. C'est sûr qu'aujourd'hui, l'objectif premier, c'est d'aider l'Ukraine et que l'Ukraine puisse vaincre, parce que nous savons que sans la victoire de l'Ukraine, le régime poutinien restera. Et donc oui, il y a des mouvements qui pensent déjà à la Russie de demain. Je pense à Anastasia Burakova qui a justement ce projet qui s'appelle « Premier vol ». Et dont l'objectif est de former une communauté prête à réformer, prête à repartir en Russie dès que le régime tombera, pour travailler ensemble à la magnifique Russie du futur, comme Alexei Navalny nous l'a laissé en prophétie et comme il l'a nommé.